je m'appelle Didier. Je suis allé à l'école jusqu'au lycée. J'ai passé le bac que j'ai pas eu. Je n'avais pas envie de le réussir. C'était après 68, hein. Donc la réussite n'était pas le phénomène auquel on pensait d'abord. Réussir était malsain presque. Donc j'ai pas eu le bac. C'est très bien comme ça. Par contre, j'ai bossé pratiquement tout de suite. J'habitais dans la banlieue de Paris, la banlieue Seine-Saint-Denis, tu sais, 93, c'était là-dedans. Et juste derrière, chez mes parents, je vivais encore avec mes parents, hein, il y avait un établissement social, un centre pour handicapés mentaux adultes. Et j'ai eu du travail à cet endroit-là très vite, comme ça, parce que je cherchais du boulot. Au début, je cherchais du boulot comme animateur. J'aimais bien animateur, ça me plaisait bien. Puis finalement, je suis arrivé comme éducateur. Mais c'est un peu normal, la demande était là, n'était pas du coup du côté des animateurs dans l'endroit où j'étais. Donc j'ai bossé rapidement comme éducateur, pas spécialisé, puisque pour ça, il faut avoir la formation. Elle est arrivée bien plus tard, la formation. Donc j'étais éducateur généraliste, puisque je n'étais pas spécialisé. Ce n'est que plus tard que j'ai fait la formation, mais on va y venir, puisque pour l'instant, donc, j'étais à Gagny, en banlieue Est. Derrière, chez mes parents, il y avait l'établissement où j'ai pu avoir du boulot. Donc j'étais éducateur dans ce lieu parce que c'était facile, je pouvais y aller à vélo déjà. À ce moment-là, donc j'accompagnais des adultes handicapés mentaux sur la partie hébergement, pas sur la journée pendant laquelle ils pouvaient avoir d'autres activités. Ils avaient une activité de travail, c'était un centre d'aide par le travail, un CAT. Donc ils avaient une activité entre guillemets professionnelle la journée, mais moi j'étais le matin au lever, le midi quand ils mangeaient, le soir et puis les nuits qu'on me chargeait de suivre et les week-ends. Donc j'étais sur toute la partie de l'hébergement, du repas, à accompagner la nuit également. Alors ça c'était dans ce centre d'être par le travail, où je suis resté un an, vraiment. Une année, parce que la deuxième année, il y a eu un petit problème dans le personnel. Une personne avait été menacée de licenciement, et moi j'étais syndicaliste déjà. Donc j'ai mis l'établissement en grève pendant un mois, avec occupation des locaux. Ce qui fait que quand j'ai dû retrouver du travail après avoir été licencié, ça a été difficile.
T'étais blacklisté ?
Un peu, oui. C'est un peu difficile. Alors du coup, j'ai trouvé du travail à des endroits où personne n'allait. Et je suis allé m'occuper de l'accueil de nuit de toxicomanes dans le quartier latin.
Donc c'est là que tu commences à travailler dans le milieu de la toxicomanie.
Oui, oui. Ouais. Assez rapidement. Donc, ouais, ça, un an après avoir commencé à travailler auprès de jeunes suivis par un juge des enfants, c'est à la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Après avoir travaillé là, ensuite, je me suis mis en difficulté puisque j'ai été licencié pour activité syndicale importante. Mais du coup, le fait que j'ai pu mener une activité syndicale importante et gérer des trucs comme ça, ça a intéressé une structure qui s'occupait de gens très difficiles à traiter. Voilà. Et donc, du coup, ils ont trouvé que c'était bien, un mec éducateur capable de foutre tout un chemin en grève et d'assurer comme ça. Il devait être intéressant aussi. Et donc, on a accepté de m'embaucher dans un centre d'accueil de nuit de toxicomanes dans le quartier latin. Et là, vraiment, c'était un gros truc, hein, c'était pas simple. Voilà. Donc, j'ai commencé comme ça, cette partie professionnelle qui m'a amené, après l'accueil de nuit, j'ai été embauché à l'hôpital de jour de cette même structure, qui s'appelait l'abbaye, on appelait ça l'abbaye à l'époque. C'était un nom assez reconnu d'un lieu qui s'occupait des populations difficiles de la toxicomanie. Alors ensuite, donc en hôpital de jour, et puis assez rapidement, cette association qui s'appelait l'association Le Pont, puis Luxembourg Pont-Neuf, puis à nouveau Le Pont, gérait également une équipe de rue, mais qui n'avait pas encore commencé à travailler véritablement à ce moment-là, comme j'étais là, parmi eux, disponible, et ça semblait être possible avec un mec comme moi. Bon, j'ai été embauché sur l'équipe de rue.
Là, pour nous situer un petit peu, c'est quelle année ?
En 1973, pour le démarrage dans la rue. Ouais. En 1973, j'étais embauché sur cette équipe de rue, rapidement. C'était la logique, hein, puisque c'était d'abord d'être dans la rue. Malgré tout, j'étais pas marginal, moi. J'étais embauché, j'étais salarié, j'avais eu un peu de formation, puisque j'avais passé le bac que j'avais pas eu, mais j'avais été à l'école quand même. Donc, je pouvais être dans la rue en tant que représentant de quelqu'un qui était intégré dans la vie. Donc, ça me permettait de rencontrer des gens qui, eux, étaient pas intégrés, mais qui avaient besoin d'être aidés ou de parler pour pouvoir intégrer la vie de l'ensemble du monde, quoi. En plus, parce que j'étais éducateur désigné comme tel, J'étais en contact aussi avec les flics, bien sûr, le ministère de la Justice, l'hôpital psychiatrique aussi, l'hôpital général, puisqu'il y avait des overdoses et il fallait s'occuper des gens. Hein. Moi, j'avais un scooter, je roulais en Vespa, et ça m'est arrivé quelquefois de transporter un mec à califourchon derrière pour l'amener aux urgences à l'Hôtel Dieu. Ça, c'était juste en face, l'Hôtel Dieu, par rapport à Saint-Michel. Bon, il y avait tout. Saint-Michel, juste en face, il y avait l'Hôtel Dieu, il y avait donc l'église avec Notre-Dame, et puis la préfecture de police aussi, il y avait tout. Tout était là.
C'était quelle drogue principalement que les gens consommaient à l'époque ?
À cette époque-là, donc on était en 73, 73, c'était juste la bascule. Jusqu'en 73, c'était principalement l'héroïne, avec le mythe d'aller se balader en Inde et tout ça, comme on pouvait avoir cette idée du voyage à l'époque. Mais rapidement, il y a d'autres produits qui sont intervenus, notamment les amphétamines. Le speed. Et les amphétamines, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même relation. L'héroïne, les gens sont cool. De toute façon, ils sont rapidement hors du coup avec la seringue, là, ça va vite. Mais ils sont pas emmerdants. Ça va. Bah, dès qu'on a commencé à avoir d'autres produits, notamment les amphétamines, c'est pas du tout pareil. Là, on a eu de la violence très rapidement. Et là, ça a changé les choses. La violence, oui, elle était vraiment importante. Hein. Je me souviens des gens que je suivais à ce moment-là. Donc, je passais beaucoup de temps entre le quartier et Fleury-Mérogis ou la santé pour aller voir les gens au Star. Ouais. Donc, assez rapidement, j'étais également viseur de prison pour pouvoir aller rencontrer les gens. J'avais été agréé pour faire du contrôle judiciaire, ce qui permettait à des gens de ne pas aller en taule et d'être suivis. Moi, j'assurais que les gens seraient présents à leur procès. C'était ça que réclamait la justice, c'était ça. Donc, en faisant du contrôle judiciaire, je permettais ça, puis ça me permettrait d'être au contact directement avec des gens qui avaient besoin aussi de cette sécurité, d'être suivis par quelqu'un qui leur permettait de ne pas être en prison pendant cette période-là. Donc j'ai fait ça un moment, même si j'étais éducateur, j'étais pas leur éducateur. Ils n'avaient pas besoin d'éducateurs, ils avaient besoin d'autre chose. Ils avaient besoin certainement aussi d'être reconnus comme tels, et ils avaient besoin d'être accompagnés pour éviter d'être en prison en attendant qu'ils soient jugés, parce que comme ils sont sans domicile fixe, on les met en prison, comme ça on est sûr qu'ils seront là le jour de leur procès. Alors, comme je les suivais moi, à l'extérieur, ils n'avaient pas besoin d'être en prison, et j'assurais la présence à leur procès quand c'était leur tour. Donc ça a été un phénomène important qui m'a permis de travailler beaucoup avec, notamment avec les gens du voyage. Le fait d'être éducateur me servait comme prétexte, mais je n'étais pas leur éducateur du tout, ils n'avaient pas besoin de moi. Hein. Mais ça m'a appris des trucs qui m'ont servi ensuite quand je suis allé travailler ailleurs, puisque je suis resté quand même pas mal de temps dans la rue, comme ça. Mais je suis allé travailler ensuite, plus tard, dans un centre de post-cure toxicomane qui était ici, au Le Peyrie, entre ici et Cahors. Et puis ensuite, j'ai travaillé à Toulouse avant d'arriver dans l'Aveyron, où j'ai travaillé auprès des gens du voyage.
À l'époque, est-ce qu'on était déjà sur des politiques de camp ou est-ce qu'il y avait ce début de la politique de les sédentariser ?
Alors, les sédentariser, il y a toujours eu des tentatives. Bon, on peut penser en Espagne, par exemple. Ça a été vraiment très obligatoire, la sédentarisation. En France, ça a commencé au tout début du siècle 1900, agricole, par des lois sur... faut que je me rappelle, parce que là, c'est important pour comprendre cette chose, mais j'arrive plus à me rappeler par cœur. Mais le fait de ne pas avoir de domicile était quelque chose de difficile, parce que la police ne pouvait pas suivre les gens s'ils n'avaient pas de domicile. Comment faire ? Alors, la loi leur a imposé d'aller pointer. D'abord, ça a été tous les jours auprès de la police ou de la mairie locale. Puis ensuite, la loi s'est adoucie jusqu'à un moment que ce soit que tous les 2 mois. Hein. Tu vois. Ensuite, ça, on a réussi à obtenir que ce soit un peu moins souvent, mais pendant longtemps, j'étais obligé d'aller pointer de façon à ce que la justice puisse toujours les trouver, quoi qu'il arrive. Ah ouais. Ah ouais, ça a été terrible, ça. Hein.
Là, c'était un sort réservé que aux gens du voyage ou aussi aux personnes toxicomanes que tu suivais ?
Au centre de domicile fixe. Qu'ils soient à son domicile fixe parce qu'ils étaient des gens du voyage ou parce qu'ils étaient toxicomanes. Hein. Donc, c'était les SDF. Hein. Ça faisait une population tellement grande que j'ai pas eu de mal à m'intégrer ensuite dans la relation avec les autres populations que j'ai eu à suivre par la suite.
Ouais. Et du coup, toi, tu as commencé dans la compris à 18
du souvent. Oui, on va dire 22 ans, allez. Bah, ouais. juste après le service militaire.
Ah oui, du coup, il y a eu le
passage. Ouais, donc, sur ça, moi, il n'a pas duré longtemps. Il a duré un mois en application électrique militaire avant d'être formé.
Ah, t'as été commandé du P4 ?
Oui. J'ai passé un mois en HP, hein, militaire. Donc, je l'ai mérité. Mais c'est pas inintéressant, parce que du coup, à cette époque-là, on parlait beaucoup de psychothérapie institutionnelle, tu sais. Oui, c'est normal, on se souvient de ça. Basaglia, enfin, des gens comme ça qui suivaient. Ouais, on est d'accord sur ces mots.
Justement, vas-y, développe un peu, parce que ce que je voulais te proposer, c'est qu'on parte un peu sur ton point de vue sur le début de la... Enfin, du travail social, la prévention, et aussi le rapport à la psychiatrie, l'enfermement.
Tout à fait. C'est pour ça que j'utilise ces mots-là, la psychothérapie institutionnelle, puisque c'est ces mots qu'on... Alors, je ne sais pas si ça porte d'autres noms, mais on utilisait ces mots-là pour parler de la relation entre la personne dite en difficulté, ou dite toxicomane, ou dite SDF, qui était forcément quelqu'un de marginal par rapport à une population... global dans les, parmi lesquels ils vivaient. Hein. Et donc, on parlait déjà de population... oui, j'utilise le terme de marginal. Maintenant, on parlait aussi à ce moment-là des loubards. Les loubards, qu'est-ce qu'on utilisait ? Alors, c'est des mots comme ça, hein, qui désignaient vraiment des gens qui étaient exclus de la vie sociale, qui appartenaient à tout le monde. Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Je ne me rappelle plus où est-ce qu'on en est.
J'allais te demander, du coup, combien de temps tu as passé... donc, tu démarres à 22 ans après le service militaire.
Ouais.
Et là, tu découvres, en passant avec ce passage à l'HP, on était là former P4, tu découvres un moment de la psychiatrie de l'époque.
Tout à fait. Qui n'était pas inintéressante, puisque c'était une époque où on essayait de montrer qu'on pouvait travailler autrement. C'est pour ça que je parle de ces mots, la psychothérapie institutionnelle. C'est une façon de travailler la relation avec l'autre qui était différente de garde-chiot ou gardien de prison, quoi. Donc, je me suis bien engagé dans cette démarche professionnelle qui m'a accompagné ensuite. Voilà. Quand je dis ensuite, c'est que je suis pas resté aussi longtemps, enfin, je suis resté quand même 7 ou 8 ans dans la rue. Mais au bout d'un moment, il a bien fallu aller travailler ailleurs. Pas que c'était impossible de continuer. Mais je me rappelle une nuit, je me rappelle le bar dans lequel j'étais, le Narval, du côté d'Odéon par là, dans ce bistrot, où je me suis rendu compte que ça faisait déjà un moment que j'étais confronté à la mort de l'autre, et puis ça n'arrêtait pas. Hein. Et puis ce jour-là, j'étais avec trois personnes, je crois. Parmi les trois personnes, il y en a deux qui sont montées à l'étage au-dessus, parce qu'il y avait un billard au début, je disais rien de spécial, mais assez rapidement je suis monté aussi, parce que j'avais bien vu qu'il y avait du conflit. Et quand je suis arrivé, il y en avait un qui tenait l'autre, il avait la barre de billard sur la gorge de l'autre, et puis il était les genoux dessus. Et je suis arrivé juste à temps pour retirer le couteau qu'il était en train de mettre sur la gorge de l'autre. Je suis arrivé juste à temps pour ça. Et puis... Bon, le mec, du coup, il a rangé son couteau, puis il s'est barré, parce que je lui ai dit, si tu restes là, les flics vont arriver. Il s'est barré. Donc j'ai sauvé la vie d'un mec, comme ça, mais je me suis aussi rendu compte que j'aurais pu arrêter ça un peu plus tôt, puisque j'avais tellement la connaissance et l'habitude de tout ça, que je savais qu'à un moment ou à un autre, ça allait arriver là. Et je me suis dit, bon là, faut que j'arrête, faut que j'aille retrouver un petit peu de naïveté, sinon je vais... Ça va se dégrader. Et du coup, j'ai quitté complètement cette activité-là. Je suis parti d'emblée, alors que je vivais donc à Montreuil-sous-Bois, et puis j'étais dans le quartier latin tout le temps, et je suis parti pour aller travailler à Belmont-sur-Rance, bien loin de tout. Hein ? Bien loin de tout. Ouais. C'est Belmont-sur-Rance, quand on descend de Rodez, c'est tout à fait le sud de l'Aveyron, hein, Belmont-sur-Rance. Tu vois, Saint-Sernin, l'enfant sauvage de l'Aveyron était trouvé par là.
Et du coup, qu'est-ce que tu as fait là-bas ?
Alors là-bas, j'ai retrouvé la naïveté que je cherchais. Hein, j'étais dans le centre d'aide par le travail pour travailleurs handicapés, mentaux, adultes. J'ai tenu. Pas tout à fait un an, mais c'était un peu difficile quand même. La transition entre Paris et Belmont-sur-Rance, c'était pas si simple. Et du coup, je suis allé faire la formation d'éducateur spécialisé à Toulouse. Ça m'a permis de retrouver un peu la ville. D'être étudiant, c'est pas mal. Hein. Donc j'ai fait la formation en 2 ans. Une formation qui se fait en 3 ou 4 d'habitude, mais comme j'avais tout ce que j'avais fait avant, ça allait bien, quoi. À la limite, c'est moi qui donnais des cours. Hein. Ce que j'avais fait d'ailleurs avant, hein, quand... quand je bossais auprès de Toxico à Paris, j'en ai des cours à Jussieu.
Et du coup, justement, toi, tu avais un petit peu de recul par rapport à tout ça. Est-ce qu'on peut dire que tu étais au début de ces métiers-là? Et comment est-ce qu'on percevait la prévention à ce moment-là?
Je me rappelle qu'à ce moment-là, il y avait quelqu'un dont on entendait parler, le patriarche, qui gérait... Moi, j'étais un opposant au patriarche. C'était pas du tout une façon que j'acceptais de faire. Il trichait beaucoup. Hein. Il avait, comme ça, réussi à obtenir... Il vivait dans un château. C'est comme on trouve des établissements sociaux. Mais c'était pas un éducateur. C'était pas quelqu'un qui faisait vraiment du boulot. Donc, je me suis opposé beaucoup à lui parce qu'il me semblait qu'on devait considérer un peu mieux les gens avec lesquels on travaillait, avec lesquels, hein, pas pour lesquels. Hein.
Est-ce que tu as le sentiment que le secteur de la prévention s'est dégradé?
Oui. Il était dégradé d'emblée.
Ah bon?
Ces équipes, pour pouvoir exister, ces équipes, il fallait qu'elles soient financées. Elles étaient financées par le département général, hein, par le conseil général. Alors, à Paris, le département, c'est la ville de Paris, hein, de toute façon. Tandis que, quand je suis arrivé à Toulouse, c'est pas pareil. Le département de la Haute-Garonne, ils étaient un peu naïfs par rapport à des trucs qui se passaient à Paris, qui leur semblaient être tellement plus compliqués, tellement... Voilà. Et donc, de Paris à Toulouse, la différence était très nette. Hein. À Toulouse, le conseil général de l'Haute-Garonne avait une autre façon de voir les choses. Et la prévention spécialisée, puisque c'était le terme qui était utilisé, hein, c'est l'agrément. Les équipes qui s'occupaient dans la rue étaient les équipes de prévention spécialisée. La prévention spécialisée à Toulouse, ça n'avait rien à voir avec la prévention spécialisée à Paris. Tu vois, donc un petit peu la façon dont je pouvais m'engager à Paris auprès des gens, auprès des juges, auprès de la police, comment je peux arriver à travailler avec tout ça. À Toulouse, c'était très différent. Il y avait beaucoup plus de naïveté. La prévention spécialisée à Toulouse, c'était une équipe qui était à Bagatelle, qui vraiment faisait pas grand-chose. Voilà. Je les ai connus longtemps, hein, donc je leur ai reproché un peu. Mais du coup, à Toulouse, moi, j'ai fait autrement, je travaillais autrement. Qu'est-ce que j'ai fait à Toulouse? Bah oui, j'ai fait d'abord l'école d'éduc, et après, il a fallu que je bosse. Je travaillais ici, à proximité d'ici, entre Villefranche-de-Rouergue et Cahors. Il y avait un établissement, un centre de post-occupation toxico, le Pégri, voilà, où j'ai travaillé pendant un an ou deux, également, pour ne pas trop perdre le contact avec ce que je savais faire. Voilà. Et c'est ensuite que je suis parti pour travailler auprès des gens du voyage, pour faire autre chose, pour conserver ma façon de travailler, ma pratique, parce que là, c'est indispensable. Hein. Auprès des gens du voyage, il faut pouvoir être à la fois bien intégré, être capable de discuter avec le juge, mais être capable aussi de discuter avec le SDF ou le gitan. Connaître les deux langues, c'est pas facile. Je veux dire, oui, on va dire deux langues. Bon, je parle un peu le manouche, je parle pas le gitan, c'est trop compliqué, le romanesque non plus. Je parle un peu le manouche, mais sans trop. Maintenant, j'ai un peu oublié, c'est bien. Mais c'était utile de pouvoir parler le manouche avec les gens et parler avec le juge selon le langage qu'il sait utiliser. Je connaissais du coup les deux langues, effectivement. C'était tout à fait utile. Être à la fois moi-même, j'étais intégré, parce que j'avais un boulot, j'étais payé pour ce que je faisais. Alors que les gitans, ils étaient complètement mis à l'écart. On leur proposait de stationner sur une place réservée, comme ils disaient. Une place réservée. On les obligeait à stationner plutôt là qu'ailleurs, pas en liberté, de toute façon. C'est ça qui est terrible, pas en liberté, il fallait qu'ils soient parqués. Et là, parce que c'était plus facile à surveiller. Comme c'était vrai aussi à Paris avec les toxicos, on leur accordait certains lieux où on les laissait se regrouper là, parce que c'est plus facile de les surveiller. Alors c'était le cas comme ça à Notre-Dame. Le parvis de Notre-Dame a été pendant un moment très largement ouvert aux gens en difficulté, parce que là au moins on pouvait les surveiller. Voilà. Alors ça a été vrai un peu comme ça aussi pour les gitans. On les met dans des places réservées.
Est-ce que toi, dans ton travail, quand tu étais à Paris, ou dans ton travail en général, les années SIDA, est-ce que ça a touché, toi?
Non. C'est arrivé après. Qu'est-ce qu'on avait? De toute façon, il y avait tous les autres trucs, hein, la syphilis et tout ça. Il y avait forcément des choses. Les maladies sexuellement transmissibles occupaient beaucoup de place, notamment pour les toxicomanes à seringue. Donc, on le voit bien, le sida, c'est arrivé encore. Donc, il y avait déjà beaucoup de choses qui mettaient en difficulté la vie réelle, quoi. Pas seulement la vie sociale, mais la vie. Mais le sida est arrivé après. Enfin, on s'y était préparé d'une certaine manière, puisqu'il y avait d'autres choses que le sida. Même ne serait-ce que la blénorragie, les petits trucs comme ça, tout ce qui était transmissible par voie sexuelle, ça reste sans arrêt. Alors, pas avec le toxicomane, c'est un peu logique, la contagion. Le sida, non, là, moi je l'ai vraiment connu, mais plus pas à Paris, quand j'étais déjà parti.
Après, tu as travaillé donc avec les communautés dans une communauté manouche, combien ouais. de temps?
Oh, une dizaine d'années.
Tu as continué à bosser où après?
Ah oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai fait encore après? Le bistrot, c'est arrivé assez vite finalement. Ouais, après j'ai tenu le bistrot ici.
Alors du coup, c'est là où, bon, bah, vu que ça ne se voit pas à la radio, à un moment, tu tombes malade.
Ah oui.
Tu continues à bosser.
Ah oui. Ah oui, quand est-ce que... Ah oui. Ah, je suis tombé malade juste à sortant de l'armée. Alors, c'était... Ça a commencé comme ça à 22 ans.
Je reviens. Alors, en fait, tu tombes malade à 22 ans. Okay.
À 22 ans, d'abord, la sclérose en plaques, ça a commencé par difficulté à la marche. Et je marchais avec une canne. Puis, la canne n'a pas suffi. Il a fallu que je passe au fauteuil. C'est arrivé assez vite, ça.
Quand tu étais sur Paris, tu étais déjà en fauteuil?
Non. Non, non. Non, non. Non, sur Paris, j'ai été un peu, si, un peu avec la canne. Mais c'est ensuite que ça s'est déclenché après Belmont-sur-Rance. Hein. Ah ouais, ça s'est déclenché, je sais pas, je situe toujours 22 ou 23 ans le démarrage de ça au début, donc ça, c'était par poussée. Donc pendant les poussées, c'était difficile, avec la canne, j'arrivais à me déplacer. Et puis c'est passé en phase seulement progressive. Finalement, 4-5 ans après le début, c'est allé assez vite. Et donc après, j'ai eu besoin du fauteuil roulant.
Mais tu as toujours, toujours travaillé en parallèle.
Ah oui, toujours, oui.
Toujours.
Oui, toujours.
À l'époque, donc, on est en 70, dans les années 70.
Oui.
Est-ce que Rose en plaque, ils arrivent à l'identifier rapidement?
Non, pas tout de suite. Hein. On va tout de suite. Non, non, les médecins, non, au départ, non. Surtout que dans l'activité. Auprès des toxicos et tout ça, j'étais très en contact avec des psychanalystes et puis la tranche plutôt psychologique. Et donc, au départ, on a pensé que c'était lié à autre chose, dans la tête, à savoir, je sais pas. Donc, ça a duré quelques mois avant qu'on définisse que c'était la SEP, la sclérose en plaques, qui était... Ah non, ça n'a pas été reconnu de suite.
Oui, donc dans tous les cas, tu n'aurais pas pu avoir la hache.
Non, non. Et puis je ne l'ai pas cherché. Hein. Je ne l'ai pas cherché à être... je ne voulais pas être classé comme handicapé. Ce n'était pas la peine, puisque je n'avais pas besoin de ce statut, puisque je gagnais ma vie en étant professionnellement... Quand j'ai même été jusqu'à avoir le diplôme à un moment d'éducateur, donc j'ai gagné ma croûte, hein, quand même. Oui, oui, non, j'ai toujours bossé, j'ai pas tenu compte de ça. L'allocation des handicapés, je crois que je l'ai obtenu à un moment, parce que c'est arrivé comme ça, à un moment où j'étais vraiment dans l'incapacité physique de travailler, j'ai dû l'avoir, un mois ou deux, puis j'ai repris le boulot, parce que j'avais pas envie d'être classifié comme ça. J'ai réussi à reprendre le boulot assez vite, oui.
Portrait de métier enregistré.